Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng.
Bonjour et bienvenue à tous. Donc nous avons survécu aux intempéries, maintenant on ne sait pas encore ce qui nous attend en ce début d'année. La semaine dernière, nous avons rappelé dans quel contexte et pour quelles raisons la pensée de Liang Qichao présente un intérêt et un enjeu majeur dans la Chine d'aujourd'hui. Ce qui explique d'ailleurs la véritable pléthore de travaux qui lui ont été et lui sont encore consacrés, notamment en Chine même. Alors il y a justement un cas Liang Qichao parce que on se dispute beaucoup pour savoir si c'est quelqu'un qui est plutôt du côté du changement ou plutôt du côté du conservatisme. La preuve en est, par exemple, cette grande exposition qui a eu lieu il y a 2 ans, donc à la fin 2023, à l'université Tsinghua, qui est on pourrait dire l'université chinoise la plus prestigieuse, qui est à Pékin, qui a décidé de consacrer cette exposition à ce que vous voyez en gros caractère, Zhongguo Xinmin, c'est-à-dire donc le nouveau peuple de Chine ou le nouveau peuple chinois, par référence justement à cette grande thématique portée par Liang Qichao, dont vous avez la photo en costume occidental dans sa période japonaise. 2023, nous sommes, c'est le 150e anniversaire de sa naissance, qui est en 1873. Et à cette occasion, donc, l'exposition retrace son parcours intellectuel, avec aussi des photos à l'appui. Vous avez cette photo que je vous ai montrée la dernière fois, dont je vous ai dit que je l'aime beaucoup parce que c'est on voit comment quelqu'un qui pense et dont la pensée passe directement dans le pinceau, c'est-à-dire que en fait vous avez la tête qui est appuyée sur une main et l'autre main qui tient le pinceau, et donc la pensée passe directement dans le pinceau. Mais alors ce qui est on imagine bien donc Liang Qichao, vraiment le super intellectuel, le super lettré, qui passe son temps à réfléchir, à écrire. Mais il faut quand même savoir que c'est quelqu'un qui n'a pas été productif uniquement sur le plan des idées et des textes, mais aussi sur le plan de la progéniture, comme vous voyez par ces photos. Vous le voyez donc sur ces deux photos, la première en compagnie d'une de ses épouses, il en a eu deux, et en compagnie de quelques-uns de ses enfants, parce qu'il en a eu 9 en tout. Je pense qu'il serait aussi très utile dans la Chine d'aujourd'hui, dont la démographie est en déclin spectaculaire. Hein. Bon. Du vivant de Liang Qichao, il y a un siècle, la Chine se trouvait à un point de bascule où tout semblait perdu, mais le paradoxe, c'est que c'est au moment où tout semble perdu que tout est également possible. Vous avez cette dynastie Manchu, que les Chinois appellent les Qing. Qing, ça veut dire les purs. Cette dynastie Manchu qui devait être, mais elle ne le savait pas encore, qui devait être la dernière de 2000 ans d'histoire impériale. Donc, elle se trouve au bout de 2 siècles d'exercice du pouvoir. Donc, elle commence au milieu du XVIIe siècle. Comme je le rappelle la dernière fois, nous sommes sous le règne de Louis XIV, ici en France, pendant que les Manchous prennent le pouvoir. et règne de façon, comment dire, extrêmement puissante et prospère pendant à peu près 2 siècles, jusqu'au milieu du 19e siècle, où là, tout commence à aller vraiment très mal. Et donc, au 19e siècle, ou à la fin du 19e siècle, cette dynastie est véritablement à bout de souffle, puisqu'elle est attaquée à la fois de l'intérieur, par des soulèvements considérables comme celui des Taiping, et aussi de l'extérieur, à partir du milieu du 19e siècle, par ces fameuses guerres de l'opium. Donc en chinois, on parle de Neiyo Wanhuan, c'est-à-dire donc des perturbations intérieures et des périls extérieurs. Et tout cela sans que cette dynastie parvienne à accepter le principe du changement et accepte de se réformer, puisque ce groupe de lettrés sous la direction de Kang Youwei, on l'a vu, échoue à faire passer une réforme politique en 1898. Alors, soit dit entre parenthèses, nous voyons actuellement un processus analogue se dérouler sous nos yeux en Iran, même si, évidemment, le régime des ayatollahs ne dure pas depuis 2000 ans. Donc, en quelque sorte, leur cas est encore plus aggravé. Alors, lorsque notre Liang Qichao s'exile au Japon, après justement l'échec et la répression du mouvement de réforme de 1898, cette dynastie, donc, en réalité, évidemment, on dit ça en fait rétrospectivement, mais cette dynastie n'a plus qu'une à peu près une décennie à vivre, puisque elle s'effondre en 1911. Mais Liang Qichao, tout en se gardant bien de vouloir renverser la dynastie par la révolution, hein, comme le fera Sun Yat-sen, Liang s'emploie à penser l'avenir de la Chine dans une nouvelle donne qui passe par ce qu'il appelle le Xinmin, hein, c'est-à-dire donc renouveler le peuple, c'est-à-dire faire du peuple des citoyens, du peuple chinois, des citoyens, en lieu et place des sujets de l'empereur, et cela dans le cadre nouveau de ce qu'il appelle de ses voeux, c'est-à-dire une monarchie constitutionnelle inspirée du modèle japonais, hein, qui lui-même, en fait, s'inspire aussi de modèles européens comme le modèle anglais. Et vous vous rappelez peut-être que la dernière fois, nous avons insisté sur la façon dont Liang Qichao ne s'est pas contenté d'emprunter des idées occidentales au Japon. Il a véritablement formulé sa conception de la modernité chinoise dans, en réalité, une version japonaise qu'il a absorbé en vivant une douzaine d'années en exil au Japon et en essayant tant bien que mal d'apprendre le japonais. Alors, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on peut être très, très intelligent, vraiment être un intellectuel génial, hein, mais qu'on peut ne pas être doué pour les langues, hein, parce qu'en vivant 12 ans au Japon, hein, Liang Qichao apparemment n'a jamais été fichu de maîtriser véritablement la langue. Et on verra aussi que quant aux langues européennes, alors là c'est zéro, hein, il a eu beau voyager pas mal aux États-Unis, en Europe, hein, et il a eu beau essayer d'apprendre l'anglais, d'apprendre le français, mais absolument rien à faire, hein. Bon, alors on a vu la dernière fois que Liang n'est pas le seul à considérer le Japon de Meiji comme un modèle, hein, puisque c'est aussi le cas d'un autre grand personnage, à savoir le poète diplomate Huang Zunxian, que vous avez ici à l'image, dans son costume d'apparat. On a vu que Huang Zunxian a représenté la Chine impériale aussi bien aux États-Unis, donc notamment au consulat de San Francisco, et également au Japon, à telle enseigne qu'il a rédigé donc ce Ruben Guozhi, c'est-à-dire donc cette chronique du Japon. Alors Ruben, je rappelle, c'est le nom que le Japon se donne lui-même. Le Japon, en fait, c'est la prononciation occidentale de Ruben. Ruben qui veut dire donc le soleil, c'est le premier caractère que vous avez, et Ben, c'est-à-dire à la racine. C'est-à-dire, on l'appelle le pays du soleil levant, mais c'est le soleil dont on voit poindre donc la racine. Ce Huang Zunxian, vous voyez que c'est quelqu'un qui fait partie de la génération précédente par rapport à Liang Qichao qui est né en 1873, Huang Zunxian qui lui est né en 1848, et dans un texte que nous lisions la dernière fois, Liang Qichao se vantait en quelque sorte d'avoir introduit non seulement de nouvelles idées, mais un nouveau style pour les exprimer. Il disait justement très explicitement que ce style avait le don d'irriter les gens de la génération précédente, sauf justement des grands admirateurs comme Huang Zunxian. Vous avez la position totalement opposée chez un autre traducteur dont on a eu l'occasion de parler déjà et dont je vais reparler aujourd'hui, à savoir Yan Fu, qui lui aussi fait partie de cette génération précédente, qui détestait le style de Liang Qichao. Il trouvait ça absolument insupportable, et il était totalement en opposition à la fois avec la position de Liang et la position de Huang concernant le Japon, parce que en fait Yan Fu considérait que la Chine n'avait pas à apprendre du Japon, dont il soulignait, il récusait justement cette montée en puissance beaucoup trop rapide à son avis. Donc vous avez là en fait des débats et des controverses qui pourraient tout à fait être transposées telles quelles dans le contexte actuel un siècle plus tard. Alors, à propos justement de cette importance de la médiation japonaise, sur laquelle j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'insister, et dont on ferait bien de se souvenir dans le contexte actuel aussi, vous avez un ouvrage collectif qui a été dirigé par Joshua Fogel, qui est un japonologue et sinologue américain, qui s'est spécialisé justement dans cette interface entre le Japon et la Chine. Et il a dirigé ce collectif qui s'intitule « The Role of Japan in Liang Qichao's Introduction of Modern Western Civilization to China ». Donc le rôle du Japon dans l'introduction par Liang Qichao de la civilisation moderne occidentale en Chine. C'est un volume qui est paru à Berkeley, à l'Université de Californie de Berkeley, en 2004. Et je vous ai mis à côté donc une autre référence importante d'un autre savant américain, Douglas Harland, qui s'appelle Translating the West, c'est-à-dire donc traduire l'Occident, où là il met aussi en avant justement cette médiation japonaise, et c'est un ouvrage qui est paru aux presses universitaires de Hawaï en 2002. Alors Douglas Harland, c'est un auteur très important justement, qui a beaucoup étudié ces phénomènes de transition et de translation. Alors, quand je dis translation, je fais aussi référence au mot anglais translation, qui veut dire traduction. Donc, c'est transition, translation, traduction, qui se passe donc à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Alors, cette dépendance de Liang Qichao à l'égard des traductions japonaises d'ouvrages occidentaux, Liang Qichao en fait état lui-même. Alors, ça ne s'explique pas seulement par le fait qu'il a vécu justement cette douzaine d'années au Japon, en exil, et ça ne s'explique pas non plus par le fait que les études consacrées à l'Occident étaient au Japon à l'époque Meiji considérablement plus avancées qu'en Chine. Le principal obstacle à la rencontre directe de Liang Qichao avec les sources occidentales, c'est le fait que je viens de rappeler, c'est que il n'a jamais réussi à maîtriser aucune langue européenne. Donc, il était totalement dépendant justement de ces traductions, translations japonaises. Il faut donc insister beaucoup justement sur cette médiation, puisque dans beaucoup d'études sur Liang Qichao, vous trouvez justement l'habituel binarisme qu'affectionnent en particulier les journalistes, qui aiment bien opposer toujours l'Orient et l'Occident. Liang Qichao serait l'oriental qui s'est approprié l'Occident. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque en réalité, Liang Qichao absorbe ce qu'il peut de la pensée occidentale par le biais du Japon, des traductions japonaises, qui elles-mêmes sont conditionnées par les circonstances politiques, culturelles, civilisationnelles du Japon dans la deuxième moitié du 19e. Autrement dit, vous avez une médiation qui est double, c'est-à-dire que ça passe par deux étapes. Notre vision de Liang Qichao comme l'introducteur en Chine de l'Occident est, comment dire, à nuancer dans tous les cas, à tel point que vous avez ce savant taïwanais qui s'appelle Huang Hehu, qui cite les propos d'un historien japonais du nom de Hazama Naoki, et qui dit que les traductions japonaises et les travaux savants ont exercé sur Liang Qichao une influence beaucoup plus importante qu'on ne l'imagine généralement. Hazama Naoki parle alors non seulement de Liang comme un maillon intermédiaire, mais que dans la façon de penser la modernité de Liang Qichao, vous avez une strate cognitive japonaise qui est profondément enracinée dans sa façon de penser. Nous le disions la dernière fois, l'un des écrits les plus importants dans l'absolu de Liang Qichao, alors dans la masse de tout ce qu'il a écrit, ses œuvres complètes comptent, je ne sais pas, au moins une vingtaine de volumes. Donc dans la masse de ce qu'il a écrit, ce qu'on considère comme le plus important, c'est ce qu'il a intitulé le Ximinshuo, c'est-à-dire donc le discours sur le nouveau citoyen ou le renouvellement du peuple, que vous trouvez par épisode, puisque Liang Qichao s'exprimait essentiellement à l'époque à travers les journaux qu'il avait créés, en particulier donc ce Ximin Congbao, c'est-à-dire donc un journal qui porte ce titre, donc le journal du nouveau citoyen ou le journal du renouvellement du peuple, et dont vous avez ici la reproduction de la table des matières. Alors, je ne sais pas si c'est très très lisible du fond de l'amphithéâtre, mais Je ne sais pas si ça fait une grande différence pour vous. Je pense que c'est important quand même de reprendre cette table des matières dans le détail parce que elle a en quelque sorte valeur programmatique. Vous avez en premier évidemment un Schulen, c'est-à-dire une introduction. Ensuite, le deuxième texte s'intitule « Lun Ximin wei Jin Le Zhongguo Di Yi Ji Wu », c'est-à-dire le renouvellement du peuple comme tâche, mission la plus urgente de la Chine aujourd'hui. Donc là, vous voyez d'emblée, justement, dès le premier texte, l'importance justement de ce renouvellement du peuple, c'est pas simplement donc une reprise d'une formule comme on l'a vu, d'une formule canonique qui remonterait au XIe siècle. C'est véritablement quelque chose qui relève de la survie nationale, de la survie de la Chine à l'époque. Si la Chine ne veut pas être rayée de la carte, il faut tout simplement qu'elle s'attelle à cette tâche de renouveler le peuple. Alors, logiquement, le texte qui suit, le troisième, donc, s'intitule « Shi Xin Min Zhe Yi », c'est-à-dire donc l'explication du sens de cette expression « renouveler le peuple » ou du « nouveau citoyen ». Et le quatrième texte, met déjà un petit peu au parfum, en quelque sorte, de ce en quoi ça va consister, ce travail de renouvellement du peuple. Jiu you sheng lie bai zhi li, yi zheng xin min zhi jie guo er lun, ji qu fa zhi suo yi. Donc, c'est la pertinence de suivre l'exemple des autres en utilisant, je traduis très 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 littéralement, en utilisant la supériorité ou l'infériorité des nations comme preuve tangible des résultats du renouvellement du peuple. Alors cette formule un peu alambiquée revient à dire que si on veut comprendre justement en quoi consiste ce renouvellement du peuple, il faut regarder ce qui s'est passé ailleurs et ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire en comparant justement les degrés de réussite des différents pays, en particulier des pays occidentaux, dans leur manière donc de renouveler le peuple, et de voir au fond que ceux qui sont allés le plus loin et le mieux dans cette tâche de renouveler le peuple sont ceux qui ont le mieux réussi. Donc là, vous avez déjà dans ce quatrième texte la thématique d'une sorte de compétition entre les nations dans adoption d'un exemple de gouvernance politique et qui conditionne justement la réussite, la prospérité et la puissance d'un pays. Le cinquième texte s'intitule « Lun Gong De », c'est-à-dire sur la morale publique, littéralement la vertu publique, « Gong ». Alors là, ça vous montre que d'une certaine façon, Liang Qichao ne renonce pas à un certain fondement confucéen de sa conception de l'ordre politique, puisque le politique ne peut pas se dissocier de la morale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un ordre politique qui soit uniquement technocratique, mais qu'il faut un fondement d'intégrité, un fondement de morale publique. Alors, tout ça pour vous dire que nous sommes dans les débuts du XXe siècle, mais c'est encore d'actualité un siècle plus tard. Vous serez d'accord avec moi. Alors, le sixième texte s'intitule « Lun Guo Jia Si Xiang », c'est-à-dire donc sur la pensée de Kuo-jia, de l'État. Parce que, donc ici, Liang Qichao est bien conscient qu'il s'agit en fait d'articuler cette notion de renouvellement du peuple avec en face justement la constitution d'un État. D'un État au sens justement moderne occidental du terme, qui n'est plus justement l'entité impériale chinoise de son époque. Texte numéro 7, Lun Jin Qu Mao Xian. Alors là, il s'agit de traiter de l'esprit de, d'entreprise. Jin Qu, littéralement, ça veut dire aller de l'avant et s'approprier les choses. Et Mao Xian, c'est-à-dire aller au-devant du danger, hein, donc ne pas avoir peur du risque. Donc là, vous avez en fait bon un texte qui porte justement sur comment dire cet esprit d'entreprise qui caractérise la pensée libérale, hein, le libéralisme. Le huitième texte s'intitule Lun Quanli Siqiang. Donc, il s'agit de la pensée des Quanli. Quan, c'est un terme qu'on a déjà rencontré. C'est le terme que les Japonais ont choisi et que les Chinois reprennent pour traduire la notion de droit. Mais j'ai déjà remarqué que ce mot, qui désigne à l'origine une balance, comme la balance de la justice, hein, et qui s'écrit avec le radical du bois, parce que les balances anciennes étaient faites en bois. Donc, cette notion de droit, en fait, est intimement associée à la notion de pouvoir. C'est-à-dire que vous avez un droit sous forme de pouvoir. Vous avez le droit de faire cela parce que vous avez le pouvoir de le faire. Donc ici, vous avez vraiment toutes les bases alors du vocabulaire et de l'ensemble idéologique de la modernité actuelle. Le neuvième texte, très important, s'intitule Lun Ziyou, c'est-à-dire sur la liberté. Donc on aura l'occasion de revenir assez largement sur d'abord ce texte et puis aussi sur ce que Liang Qichao entend par Ziyou, qui est censé traduire le mot liberté au sens occidental du terme. On va voir que ici Liang Qichao suit la traduction japonaise, qui n'est pas l'interprétation chinoise qui a été adoptée par tous les traducteurs chinois à l'origine. Hein, donc là, on voit à quel point Liang Qichao pense véritablement en japonais. Le texte suivant est dans la foulée, c'est le texte numéro 10 qui s'intitule Lun Ziji, hein, c'est-à-dire sur le fait de se gouverner soi-même, hein, sur l'auto-gouvernement. Donc là, vous avez deux textes qui comportent des expressions à deux caractères qui commencent toutes les deux par zi, c'est-à-dire soi-même. Hein. Donc vous avez cette dimension réflexive qui est introduite justement par les théories politiques occidentales, hein, c'est-à-dire le fait non seulement donc d'obéir, de suivre le courant d'un ordre politique, mais là en fait de se regarder soi-même, hein, comme citoyen, hein, parce que devenir citoyen quand on a été pendant 2000 ans sujet de l'empereur, ça demande d'abord un travail réflexif. Et de la même façon, comprendre quelque chose au nouvel ordre politique, c'est comprendre que ça commence par savoir comment se gouverner soi-même. Le texte 11 s'intitule « Lun Jinbo », c'est-à-dire c'est un texte qui porte sur le progrès. Vous avez de nouveau ce verbe « jin » qu'on a rencontré tout à l'heure, qui veut dire donc s'avancer, aller de l'avant, hein, et « bo » qui veut dire faire un pas. Donc « jinbo », c'est faire un pas en avant, c'est-à-dire donc progresser. Hein. Alors là, bien sûr, bon, inutile de vous faire un dessin pour que vous compreniez justement que ici il s'agira d'une description de ce que la pensée libérale du XIXe siècle appelle le progrès. Hein. Nous sommes en pleine pensée positiviste. Hein. Auguste Comte n'est pas très loin. L'humanité, selon le monde occidental, est dans un progrès constant. Alors là, un siècle plus tard, on en est un tout petit peu revenu. Maintenant, on pense plutôt en termes de décroissance, hein, mais disons que là, nous sommes véritablement dans ce mouvement-là. Le texte numéro 12 revient à cette dimension réflexive puisqu'il s'intitule « Lun Zizun », c'est-à-dire donc sur le fait de se respecter soi-même, hein, c'est-à-dire le respect, l'estime qu'on peut avoir pour soi-même. Hein, parce que, justement, ça c'est une leçon pour les concitoyens chinois auxquels Liang Qichao s'adresse. Ils sont dans une situation, comme je disais, quasiment désespérée. La Chine est en train d'être découpée en tranches par les puissances coloniales européennes. Et comme je le disais tout à l'heure, la Chine est sur le point d'être rayée de la carte. Et donc, dans ce contexte-là, il faut commencer par garder son estime de soi, le zizun. Et bizarrement, vous retrouvez justement ce genre de vocabulaire dans le discours officiel actuel. Le leader actuel parle beaucoup justement de cette estime de soi, de zizun. Le texte numéro 13 s'intitule « Lun He Qun », c'est-à-dire donc c'est donc la façon de « he », c'est-à-dire de se mettre ensemble, hein. Chun, c'est cette notion de groupe. Alors, chun, notion très très importante justement dans ce vocabulaire du 19e siècle, que l'on reprend en particulier d'un penseur antique confucéen qui est Xunzi, pour qui justement le propre de l'homme, c'est de vivre en communauté. Hein. Donc Chun, c'est ce terme. Je peux pas vous le détailler, mais vous reconnaissez dans une composante de ce caractère, donc le caractère qui désigne les ovins, hein, c'est-à-dire tout ce qui est mouton, chèvre, caprin, etc. Donc cette notion de troupeau, hein, le fait que les humains sont des êtres essentiellement grégaires, hein, et que ils ont cette capacité justement de travailler ensemble. Hein, c'est ça que dit ce titre, He Qun, c'est donc la façon de travailler ensemble, de coopérer. Ensuite, le texte suivant, 14, c'est Lun Sheng Li Fen Li. Alors, vous avez deux fois ce terme de Li qui est un terme aussi ancien, qui apparaît déjà dans les entretiens de Confucius, où il est, en opposition, hein, à la voix de l'homme de bien. Hein, l'homme de bien, c'est celui qui justement ne recherche pas le li, à savoir le profit. Donc li dans le vocabulaire confucéen a une connotation a priori négative. Alors que là, dans justement l'adoption de cette pensée économique libérale, hein, le Li devient au contraire tout à fait positif, hein, et donc il s'agit ici de Sheng Li, c'est-à-dire donc littéralement de donner naissance, de produire du profit, et ensuite de le Fen, c'est-à-dire de le partager. Donc là, vous avez des éléments de théorie économique libérale, hein, qui consiste justement à produire du profit pour ensuite pouvoir le partager, hein, de manière à peu près égalitaire, ce qui est évidemment le grand problème. Hein. Bon, là aussi, nous sommes en pleine actualité. Texte numéro 15, le Yili. Alors ici, nous sommes véritablement en plein dans cette idée que toute cette pensée de la liberté, cette pensée des droits des citoyens, ne va pas sans justement la notion de li, c'est-à-dire ici c'est le li qui signifie la force, hein, et qui dans ce contexte désignerait pratiquement une sorte de volonté de puissance. Donc là, j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça nous fera comprendre comment justement Liang Qichao peut prononcer la phrase qui fait l'objet du cours de cette année, hein, c'est-à-dire que les Chinois ne sont pas capables de jouir de la liberté. Hein, c'est-à-dire que pour lui, la liberté, c'est un pouvoir, c'est même une forme de puissance. Or, les Chinois de son époque, d'après lui, sont trop faibles, hein, pour pouvoir exercer ce pouvoir. Texte suivant, numéro 16, Lun Yi Wu Si Xiang. Même à l'oral, j'espère que vous avez repéré ce doublon Si Xiang, hein, qui veut dire la pensée donc de Yi Wu, du devoir ou de l'obligation. Parce que, évidemment, les droits, nous le savons, en tant que citoyens, ne vont pas sans devoir. Texte suivant, 17, Lun Shang Wu. Là, il s'agit de l'importance des affaires militaires. Bon, là aussi, rapportons cela à notre actualité. Alors, ce qui est quand même assez frappant, c'est qu'il faut quand même ici attendre le texte numéro 17 sur 20, hein, pour que notre Confucéen bontain, qui est Liang Qichao, soit amené à parler d'affaires militaires. Parce que là aussi, le Wu, c'est-à-dire le martial, tout ce qui concerne l'art de la guerre, hein, c'est quelque chose dont les Confucéens ne s'occupent pas. Hein, enfin, c'est-à-dire, ils laissent ça à des esprits inférieurs que sont les militaires. Hein, et pour eux, ça n'est pas véritablement une priorité. Hein, mais à un moment donné, il faut quand même, dans certaines circonstances, s'en occuper un peu. Hein, bien. Texte suivant, le 18, Lun Si De, donc sur la morale privée. Vous aviez donc un peu plus haut donc la morale publique dans le texte numéro 5, Gong De. Ici, vous avez la morale privée, c'est-à-dire que la morale publique ne peut pas se constituer. Nous ne pouvons pas constituer un corps sociopolitique fondé sur une base morale si nous ne commençons pas par nous-mêmes individuellement. Alors là aussi, ça fait partie du credo confucéen, c'est-à-dire que la morale commence par soi-même. Parce que c'est toujours trop facile d'établir une loi générale. Il faut, il y a qu'à, etc. Hein, on doit, hein, si ça ne commence pas par soi-même. C'est là justement la difficulté. Et enfin, donc avant-dernier texte, 19, le Minqi. Hein, alors, on pourrait traduire par le moral du peuple, pas la morale, mais le moral, puisque ici, vous avez la reprise d'un mot aussi très ancien dans le vocabulaire chinois, le mot qi. dont on vous rebat les oreilles dans toutes les formes de pratiques, justement, d'arts martiaux, de kung-fu, de tai-chi-chuan, etc. C'est-à-dire, c'est cette énergie du souffle, l'énergie vitale, hein, et là, qui est appliquée, justement, au peuple. Donc, le peuple, là aussi, c'est, comment dire, une sorte d'énergie, hein, de puissance, qui, quand elle est bien constituée, est capable de renverser donc un régime politique. Vous avez une caricature que j'essaierai de vous montrer la prochaine fois, où vous avez donc justement tous les citoyens qui se réunissent pour souffler et renverser un régime. C'est-à-dire que là, on prend véritablement le mot qi. Dans toute sa littéralité, hein, c'est vraiment l'énergie du souffle vital qui est ici rapportée donc au peuple. Et enfin, donc le dernier texte, qui lui seul est tout un programme, puisqu'il s'intitule Lun Zheng Zhi Neng Li, c'est-à-dire sur la capacité politique. Donc le dernier texte est véritablement une sorte de synthèse de tout ce qui précède, puisque en réalité Liang Qichao nous dit ici, hein, nous sommes déjà en fait dans les années qui précèdent la révolution et qui précèdent l'instauration de la République. Le politique, c'est d'abord une sorte de puissance, une sorte de nengli, une capacité, hein, sans laquelle donc on ne peut pas véritablement parler d'ordre politique. Alors, donc vous voyez à travers donc cette table des matières donc un programme qui reprend enfin des thèmes qui nous sont évidemment familiers puisque mais qui sont tout nouveaux justement pour les Chinois de la fin du 19e, début du 20e, toutes ces justement thématiques qui sont au cœur de la pensée libérale et de la pensée capitaliste en particulier. Alors, je pense que nous pouvons aujourd'hui lire l'intégralité du texte d'introduction, donc ce Xi Min Shuo Xu Lun, qui paraît pour la première fois sous forme d'article dans le Xi Min Congbao, c'est-à-dire donc dans le journal du Nouveau Peuple, en février 1902. Alors, c'est un texte donc que Liang Qichao rédige avant la date fatidique de 1903, hein, qui va nous occuper, puisque c'est en 1903 que Liang Qichao fait ce grand voyage aux États-Unis et où là, en observant les communautés chinoises d'outre-mer, c'est-à-dire donc qui sont installées aux États-Unis, à San Francisco en particulier, il change totalement d'avis. Hein, et il devient extrêmement pessimiste, ce qui le pousse justement à devenir plus conservateur que réformiste. Donc c'est ce moment de 1903 qui va nous occuper, mais pour l'instant, nous avons Liang Qichao, encore dans cette phase ascendante, hein, où il s'enthousiasme justement pour ses nouvelles idées. Alors, 自世界初，有人类以弃今日，国于环球上者，何斥千万？ Donc, depuis l'apparition de l'humanité dans le monde jusqu'à aujourd'hui, les États qui ont existé sur le globe se comptent par milliers, voire dizaines de milliers. 问其岿然今存，能在五大洲地图沾一颜色者，几何乎？曰：百十而已矣。 Mais parmi ces pays, ces États, combien subsistent encore aujourd'hui, dressés dans toute leur puissance et occupant chacun une couleur sur la carte des cinq continents. Donc là, ça vous rappelle un petit peu justement cette couverture du Shimin Tsongpa. Vous avez une espèce de code couleur pour les pays. Et donc, un pays qui se dresse tout seul et qui a droit à sa couleur sur la carte, combien est-ce qu'il y en a? Et la réponse est à peine une centaine. Ci bai shi guo zhong, qi neng yi ran qiang li, you zuo you shi jie zhi li, jiang lai ke yi zhan sheng yu tian yan jie zhe, qi he hu, yue, si wu er yi. Mais parmi cette centaine d'États, combien peuvent se tenir solidement debout, exercer une influence décisive sur le monde et être capable à l'avenir de triompher dans l'arène de l'évolution naturelle? La réponse est 4 ou 5 tout au plus. Là aussi, enfin, je pense que si ça n'était pas écrit dans un chinois vaguement classique, on pourrait tout à fait lire ça à la une d'un média. Ah oui, pardon, oui, j'ai oublié de passer. Oui, voilà. Donc vous avez justement ce que Liang Qichao appelle par une expression importante, le Tian Yan Jie, c'est-à-dire donc le monde de Tian Yan, de l'évolution naturelle. Nous avons l'occasion de revenir sur cette expression, qui est en fait le choix de traduction par Yan Fu, de la notion de darwinienne, d'évolution naturelle. Fu tong shi ri yue, tong shi shan chuan, tong shi fang zhi, tong shi yuan lu, ruo zhe yi xing, ruo zhe yi wang, ruo zhe yi ruo, ruo zhe yi qiang, ze he yi gu, huo yue, shi zai di li. Et pourtant, nous partageons tous le même soleil, la même lune, les mêmes montagnes, les mêmes rivières, les mêmes pieds, les mêmes crânes. Et pourquoi certains de ces États prospèrent tandis que d'autres périssent? Pourquoi est-ce que certains s'affaiblissent tandis que d'autres se renforcent? Quelle en est la raison? Certains répondent, c'est la géographie. Alors là, est-ce que c'est un rappel des thèses de Montesquieu sur justement la géographie qui jouerait son rôle justement dans la prospérité ou la non-prospérité de certaines zones de la Terre. Donc, certains disent que c'est la géographie. Bon. Ran, qin zhe ya mei li jia, you gu a mei li jia, er an ge lu sa xun, ying guo ren zhong zhi ming ye, min zu, he yi xiang qi rong. Mais l'Amérique d'aujourd'hui n'est-elle pas la même que l'Amérique d'autrefois? Alors pourquoi est-ce que la race anglo-saxonne britannique y jouit-elle d'une telle gloire? Comment ça se fait que les Anglais ont réussi donc à coloniser l'Amérique? De la même façon, Gu zhi luo ma, You jin zhi luo ma, er la ding min zu he yi zhui qi yu, huo yue shi zai yin xiong. la Rome ancienne n'est-elle pas la même que la Rome actuelle? Alors pourquoi la nation latine a-t-elle vu son prestige s'effondrer? Alors d'autres répondent, c'est le fait des yinxiong, littéralement des héros, qu'on pourrait comprendre ici comme les grands hommes ou les hommes forts. Ça, ça plairait beaucoup à Monsieur Trump. Hein. Bon. Ran, fei wu yali shan da er he yi ma ji dun jin yi cheng hui chen. Fei wu cheng ji si han er he yi meng gu ji bu bao chan chuan. Mais, alors s'il s'agit justement d'hommes forts ou de héros, hein, est-ce que nous n'avons pas eu un Alexandre? Mais alors pourquoi est-ce que la Macédoine n'est aujourd'hui plus que poussière? Et de la même façon, Genghis Khan, Genghis Khan, donc en transcription, donc Genghis Khan, est-ce qu'il n'a pas existé? Et pourquoi donc la Mongolie actuelle survit à peine, hein, elle est complètement à bout de souffle. Vous avez donc la description justement de toutes ces zones civilisationnelles. Vous avez l'Amérique, vous avez la Rome antique, vous avez la Macédoine d'Alexandre, vous avez la Mongolie de Genghis Khan et tout ça. Ça n'explique pas justement cette diversité des destinées des États. Wuhuishi donc, alors là, vous avez des exclamations, hélas, moi, j'en connais la cause. Je vais vous dire ce qu'est la cause. Alors, la cause, c'est que un État, ça se forme par jimin. Verbe très intéressant, donc par, vous reconnaissez le mot min, le peuple, un État se forme par qi, c'est-à-dire l'accumulation du peuple. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'accumulation? C'est l'accumulation d'énergie, c'est-à-dire le qi, c'est le fait de se renforcer en accumulant de la force, en accumulant de l'énergie. Donc un État qui tient debout, il tient debout grâce justement à cette énergie, à cette force du peuple. Et ensuite, Liang Qichao a recours à une comparaison, à une sorte de métaphore. « Guo zhi you min, you shen zhi you si zhi » ou zang, jin mai xie lun ye. Donc le peuple d'un État est à l'État ce que les quatre membres, les cinq viscères, les nerfs, les veines et la circulation du sang sont au corps humain. Donc, wei you si zhi yi duan, wu zang yi ji, jin mai yi shang, donc jamais on a vu un corps dont les membres seraient amputés, les viscères complètement détruits, les nerfs ravagés et le sang tari continuer à vivre. Et de la même façon, on n'a jamais vu un peuple ignorant, lâche, dispersé, confus, permettre à un État de se maintenir debout. Gu, conclusion, gu, yu qi shen zhi chang sheng, jiu shi, zhe shi sheng zhi shu, bu ke bu ming, yu qi guo zhi an fu zun rong, 则新民之道 不讲。Donc, ainsi, si on souhaite que le corps vive longtemps et voit loin, il faut impérativement maîtriser l'art de rester en bonne santé. Et si on souhaite que l'État soit en paix, prospère, honorable et puissant, respectable et puissant, il faut impérativement donc enseigner la voie du renouveau du peuple. Ximin. Donc, vous avez dans ce texte quelque chose de très, comment dire, significatif, parce que vous avez la combinaison d'une pensée qui essaye d'intégrer toutes les thèses récentes à l'époque du darwinisme social, avec cette référence justement à la compétition, la lutte pour la survie dans l'arène de l'évolution, et en même temps, donc, vous avez justement ces références aux théories politiques anciennes confucéennes, c'est-à-dire que aucun État, enfin aucun pays ne pourrait tenir sans un peuple qui soit, comment dire, moral, qui ait une qualité morale, la morale commençant par chaque individu sur lui-même. C'est quelque chose de comment dire, de véritablement très très intéressant, qui vient doubler d'ailleurs le mode d'expression lui-même, comme je l'ai souligné la dernière fois. Hein, donc le style de Liang Qichao, il le qualifie lui-même de Xin Wenti, c'est-à-dire un nouveau style. Qui est à la fois, on voit bien que ça vient du vocabulaire, enfin, ou du style classique, hein, et en intégrant justement toutes ces thématiques modernes, vous avez une vivacité du style qui est propre au journalisme. Hein. Donc vous avez dans ce texte d'introduction des questions-réponses, hein, mais pourquoi est-ce que bon, nous avons autant de pays, etc. La réponse est, il nous prend à partie, hein, et nous dit bon, alors vous avez dans tous les pays, combien est-ce que il y en a qui surnagent et ont des chances de surnager dans les générations futures? Ben, il y en a pas plus de 4 ou 5. Et là, je pense que dans la situation actuelle, nous nous retrouvons exactement dans cette configuration. C'est véritablement, je crois, quelque chose qui va devoir nous servir de conclusion pour aujourd'hui, parce que je me laisse emporter et naturellement je vois pas l'heure passer. Donc nous reprenons là-dessus la prochaine fois. Je pense qu'il fallait véritablement faire toute cette contextualisation, ces lectures, pour comprendre justement ce que Liang Qichao comprend par cette notion de ziyou, de liberté, hein, qui est, je pense, assez éloignée, ou en tout cas assez différente de ce que nous croyons comprendre. Bien. Merci et à la semaine prochaine. Si vous...
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.